Tiré du recueil Fantôme breton Conte. Les maisons isolées sur les routes presque abandonnées qui traversent les montagnes, maisons trop nombreuses encore pour le bonheur des Powtred Cald, durs garçons de la Basse-Bretagne, tristes cabanes qu'une lourde vapeur de cidre environne et dont un fagot de gui orne toujours la façade lézardée. Ces maisons-là, vous en conviendrez, sont bien nommées, trop bien qualifiées par ces mots « chapelle el diaoul », « chapelle du diable ». Hélas, il n'est que trop vrai. Nos paysans bretons y font de trop fréquentes stations. Le cidre détestable qu'ils y trouvent a pour eux un goût qu'aucune liqueur n'égale sur la terre. Ils oublient peine, douleur, misère, ils oublient femme, enfant, famille, ils oublient intérêt, affaires, religion, ils oublient tout, jusqu'à leur conscience. C'est assurément un spectacle bien étrange en Basse-Bretagne que le retour d'une foire ou d'un pardon. Mais c'est un spectacle bien triste que ces hommes qui trébuchent dans les chemins creux, trop étroits pour leur marche louvoyante, pareille à celle d'une chaloupe qui tire des bords pour naviguer contre le vent. Et ces pauvres femmes, épouses et filles, sœurs ou fiancées, qui essaient d'arracher de l'auberge leur mari, leur frère, leur fiancé, leurs parents ivrognes, c'est le mot obligé, ou qui souvent s'efforcent de soutenir leurs pas chancelants sur le chemin, qui parfois aussi s'interposent entre deux camarades sur le point d'en venir au coup, oui, c'est bien triste. Telles sont les impressions de mon âge aujourd'hui. Mais autrefois, je ne le voyais pas ainsi. Non, en vérité. Et qu'on me pardonne cet étrange aveu. Je trouvais du pittoresque dans ces groupes chancelants, bruyants, chantants, du dramatique dans ces luttes où le poing le plus dur faisait la loi, du comique dans ce désespoir des femmes qui, la pipe à la bouche et trois ou quatre ensemble, relevaient du fond d'une douve, en unissant leurs efforts, un parent ou un voisin aviné. Je trouvais enfin un plaisir infini à voir l'ensemble animé, joyeux et assourdissant de nos pardons de Cornouailles. Cela me remet en mémoire une petite anecdote de ce genre qui me causa dans le temps, j'ose à peine le dire, une joie infinie. Nous revenions du pardon de Lotéa, village situé près de la jolie bourgade qui étale ses bosquets, ses prairies, ses délicieux jardins, au confluent de l'Isole et de l'Élée. J'ai déjà parlé ailleurs, je m'en souviens, du pardon de Lotéa, de la petite chapelle, de la fontaine et surtout du chemin ravissant qui y conduit, au milieu des taillis, en côtoyant la Laïta. Ainsi on revenait sur le soir du pardon de Lotéa. Cela se passait à peu près comme je l'ai esquissé au commencement de ces pages. Le sentier, serpentant dans les bois, semblait être bariolé par les nombreux costumes des pardonneurs, comme un long ruban de couleurs diverses. C'était original. C'était intéressant et complètement breton. On entendait dans le lointain les sons de la bombarde et du biniou, les airs gais et harmonieux que jouait si bien Mathurin l'aveugle. Les Powtred chantaient. Les jeunes filles riaient et cueillaient les derniers bouquets de lait. Mais le cidre de Père Liquem avait bien généreusement coulé au pardon, à raison d'un blanc la chopine. Aussi un grand nombre de retardataires attaquait-il en revenant les talus du chemin creux, sans souci des épines et de la lande qui garnissaient les bords. Nous regardions tout cela en riant et nous ne suivions pas sans plaisir les évolutions des amateurs du cidre. Les meilleures pratiques de Père Liquerne, le cabaretier du bois de l'abbaye. Il y en avait un surtout qui nous amusait singulièrement par les embardées étonnantes qu'il exécutait. Le chemin, assez large quoique fort inégal, à l'endroit où nous nous trouvions alors, se prêtait aux gambades forcées de notre ivrogne. Nous disons forcées parce que, au moment où l'équilibre lui manquait, il ne rattrapait momentanément son centre de gravité qu'au moyen d'un soubresaut des plus comiques, qui le portait alternativement d'un côté à l'autre de la route. Mais cette singulière pantomime ne pouvait durer bien longtemps, à cause de la pente et des inégalités de terrain, et surtout de l'ivresse croissante de notre homme. C'était le dénouement prévu et inévitable que nous attendions pour achever ce divertissement à peine avouable. Enfin, le roulis qui agitait le paysan devint étonnant, insoutenable, fantastique. Son chapeau avait déjà mordu la poussière à 50 pas de là. Il agitait encore le bras pour le ressaisir. On eût dit une chaloupe désemparée et en détresse sur des houles bondissantes. Hélas, le naufrage était inévitable. Un caillou au rebord du chemin fut l'écueil contre lequel notre homme alla sombrer, corps et biens. Et dans quelle position, juste ciel! Nous avons dit que les fossés étaient garnis de fortes touffes d'ajoncs, d'épines et de broussailles. Ce fut au beau milieu qu'il alla donner, la tête la première avec accompagnement de huées de tous les passants. Mais nul ne s'occupa de dégager le malheureux, de l'arracher aux pointes acérées qui devaient lui labourer la figure et la poitrine. On riait, on le poussait du pied, puis on passait. Il ne pouvait tomber mieux, disait-on. Sa tête est à l'abri du serein de la nuit. Et ses jambes ne dépassent point l'ornière où le Carrigel Annankou, char de la mort, pourra rouler ce soir sans lui rompre les os. Tel est le cas que l'on fait en Basse-Bretagne d'un misérable que le cidre couche sur le chemin. On rit et l'on passe. Mais on ne s'en préoccupe pas davantage, tant ces scènes sont communes au retour des pardons. Eh bien, on me permettra de le dire, mieux vaut l'ivresse du cidre que celle des mauvais écrits. Mieux vaut un paysan ivre qu'esprit fort. Mieux vaut pour lui la lie du vin que celle qui se trouve au fond de beaucoup de livres. Mais nous voilà bien loin de la chaise en enfer, et cette digression ne s'est présentée sous notre plume qu'au souvenir du pauvre cabaret, où l'histoire de Griffard, le buveur de cidre, me fut racontée. Un soir donc, l'excursion de la journée avait été plus longue que je ne l'avais prévu, j'entrai dans la triste auberge que l'on voit au bord de la route, près d'un pont jeté sur un joli ruisseau, affluent de l'Ailé, dans la commune du Sein entre le Faouette et Gourin. Là, je m'étais à peine assis auprès du feu qu'un vieux charpentier de Guiscriff, comme je l'appris dans la soirée, vint aussi s'asseoir et réclamer sa chopine de cidre pour de pauvres sous, que je payais généreusement. C'était bien peu. Pourtant, cela suffit pour obtenir du vieux conteur le récit suivant. À vous, lecteur, de juger s'il vaut deux sous. Chapitre 2. Oui, mes enfants, la chaise de Griffère avait été faite en enfer avant sa naissance. Mais Satan, comme on sait, a un flair du diable, et il avait senti la venue prochaine de son ami. Entre coquins, on se connaît, entre diables, on s'estime. Et voilà comment Griffère était attendu en enfer avant sa naissance. Pour lors, donc, Griffard vint au monde sensé, avec bec, ongles et dents, passablement aiguisés par la malice. À 6 mois, c'était déjà un luron dégourdi. À 5 ans, il donnait le saut au meilleur lutteur du Faouet. Et à 7 ans, âge de raison pour les chrétiens, Maître Griff parlait mieux qu'un avocat de Vannes, si c'est possible. Voilà donc à 12 ans sonnés, il demanda son compte à sa mère, qui était une digne veuve de Guiscriff, vivant à peine de sa quenouille. La pauvre femme, ne pouvant plus nourrir un tel vaurien affamé, et non moins altéré, ne fut pas fâchée de le voir partir, d'autant plus que dernièrement Griffard avait eu de vilains démêlés dans le pays. Il avait battu un marguillier de la paroisse, qui voulait le sermonner, et donner une danse, censée, au bedeau de Faouette, qui était son parrain, parce qu'il lui avait refusé de l'argent, le jour du pardon de Sainte-Barbe. Enfin, le voilà parti par la grande route de Gourin. Un peu plus loin, en montant la côte du Cheval, comme il faisait grand soleil, il fut pris d'une soif de posséder, et apercevant un petit cabaret, à mi-côte, il tâta son gousset percé pour voir s'il lui restait quelques sous. Par malheur, il avait bu son dernier liard en passant au pont de Pierre, et se dit que n'importe. Fallut-il éreinter le cabaretier, il aurait du cidre, ou que le diable s'en mêlerait, pour sûr. Il n'avait pas fini de dire ou de penser cela, qu'il vit venir à lui un amateur assez bien tourné. C'était un gros paysan, sensé, habillé à la mode de Guiscriff, avec un gros penne-base et un gros sac sur le dos. « Tiens, lui dit le gros paysan, c'est toi, Griffard. Comment vas-tu, mon fils ?»«
Comment, fit Griffard. Vous me connaissez donc, vous, le gros bonhomme ?»«
Si je te connais, reprit l'hôte.
Appelle-moi mon oncle. Je suis ton père nourricier.
Je te connaissais avant ta naissance. »
Je procure au bon luron toute joie et plaisir, la peine de dire merci. Ça te convient-il?
Bien sûr, mon oncle, que ça me convient, surtout si vous payez à boire. Entrons dans la maison, nous causerons mieux devant un joli pot de cidre, pas vrai?
Les camarades s'en donnèrent une bonne, comme vous pensez. Mais le gros avait beau verser du cidre à Griffard, rien n'y faisait. Griff était aussi solide qu'au commencement, et le gros homme avait déjà un coup de soleil que sa face de vieux pendard en suait rouge comme du sang. Alors, pendant que le cabaretier était sorti pour prendre l'air, vu qu'autour des buveurs il faisait une chaleur d'enfer, l'étranger dit à Griffard « Assez comme cela, mon neveu, et faisons nos comptes. »«
Faisons nos comptes, mon oncle, ça me va. » »«
Alors dis-moi, « Merci, tonton. Quand même vous seriez le diable en personne, je vous appartiens corps et âme. Moi, en retour, je me charge de ton chemin, de te placer sur un trône en ce monde et de t'asseoir commodément dans l'autre, vu que je t'y ai préparé un fauteuil avant ta naissance.
« Ah, mon oncle, dit aussitôt Griffard, vous êtes aimable tout de même, et quand vous seriez le grand diable en personne naturelle, « je suis votre serviteur à la vie et à la mort. C'est juré, juré sur vos cornes, pourvu que j'ai toujours une bourse aussi ronde que votre sac. Mais sans vous commander, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mon oncle ?»«
Peu, fit le vieux tentateur. Presque rien, mon neveu. Le métier ne va pas fort depuis le dernier jubilé. N'importe, top là, bien vite, et tu seras content. »
Les deux complices stoppèrent là-dessus, et quand Griffard releva les yeux, il vit à la place de son oncle un sac qui fumait, sensé, autant que braise éteinte, et sonnait comme de l'or monnayé.
C'était de l'or, en effet, et ça fumait là-dedans, comme si le diable avait fondu à l'instant. Le cabaretier ne tarda pas à rentrer, et Griffard lui jeta un louis si jaune que l'autre en vit des chandelles. « Quenavo, au revoir, lui dit Griff, en sortant. « Où allez-vous donc, l'homme riche ? Dit le cabaretier qui se nommait Yann Kidour, Jean Chien d'eau. « Moi, je ne sais pas, répondit maître Griff. Je vais chercher par là un trône, censé. Connais-tu par ici un roi pané qui voudrait vendre sa place pour une jolie somme ?»« Un roi pané ? Dit Yann. « Connais pas. Ah, si fait pourtant. On dit qu'il y a là-bas, dans une forêt du côté de la mer, un vieux roi saxon, sans le sou, et sourd comme une bûche. C'est le roi Parafilando, ce qui veut dire prêt à filer. Tu comprends ? Oui, voilà mon affaire. À présent, le chemin. Oh, le chemin n'est pas difficile. Quand tu auras monté la côte du cheval, tu verras une route à gauche. Tu feras 3 lieues par là. Alors tu tourneras par un chemin à droite. Tu iras jusqu'à une pierre levée qui est au milieu, et puis tu prendras à gauche. Tu iras jusqu'au moulin. Alors tu verras un grand bois. Tu iras sur la droite. Ensuite, ah, dis donc, l'ami, interrompit Griffard, tu plaisantes avec tes à droite, à gauche, tu iras, tu prendras, etc. Moi, je suis Griffard, et je n'aime pas à rire. Ainsi, fais ton paquet. Tu vas me piloter, et tu auras encore 3 genêts pour ta peine. »
Yannick Kidour, qui aurait donné, censé, toute sa boutique pour moins de la moitié, fit son paquet en prenant son bonnet et son bâton, et se hâta de mettre la clé sous la porte, sans trop de regret, vu qu'il devait déjà 2 années de fermage à son propriétaire. Il en a beaucoup qui paient comme cela du côté de Le Gourin et ailleurs, pas vrai? Voilà donc Griffard et Yann Kidour en route, comme 2 vieux amis. Ils passèrent par le chemin à droite, par le chemin à gauche, trouvèrent la pierre levée et arrivèrent au moulin. Le meunier, qui était bon enfant, les régala de la bonne façon, en disant qu'il connaissait nos trous, Griffard, de réputation. Ils restèrent au moulin 2 ou 3 jours, mais étant à sac et à sec, tous les cabarets des environs, et l'argent du tonton filait rondement à ce jeu-là. Tout en causant, le meunier leur apprit que le roi Parafilando avait 3 belles filles à marier, et que la plus jeune, nommée Finique, était si fine et si jolie que rien n'y résistait. Il leur dit aussi que le vieux roi Bouzard ou Sourd n'avait plus le sou, censé, et qu'il cherchait un gendre riche pour le tirer de presse. « Voilà mon affaire, » pensa Griffard. Pour l'or, Finique commença à lui trotter par la tête. Il acheta au meunier son beau costume du dimanche, avec habit bleu et bas violet, quoiqu'il fût un peu trop court pour lui. Et pour Yann Kidour, il acheta celui du valet, qui était un peu trop large, vu que Jean Chien d'eau était maigre à faire peur. N'importe, ainsi équipé, comme des bourgeois qui vont à la foire, ils se remirent en route et entrèrent dans la forêt, au bout de laquelle se trouvait le château de Parafilando. Inutile de vous raconter toutes les choses surprenantes qu'ils virent dans la grande forêt et les obstacles qu'ils eurent à franchir. L'or de Griffard était puissant, puissant comme l'enfer. Avec ça, on surmonte tout. Oui, quand Dieu le permet, censé. Pourtant, il faut vous dire que dans le milieu du bois, ils trouvèrent une caverne noire, fermée par une grille de fer rouge, derrière laquelle se tenait le gardien, un monstre épouvantable. Maître Griff, qui n'avait peur de rien, ayant demandé ce qu'il y avait là, le monstre répondit « C'est ici la porte de l'enfer, et dans le fond la chaise de Griffard. Entrez, s'il vous plaît. » « Oh, pas encore !» fit Griffard, sans se déconcerter. « Pas encore !»« Mais mon sac est vide. Ainsi, donne-moi un autre, de la part de mon oncle. »« C'est bien !» dit le monstre, et il tira de dessous les roches un sac sonnant et bien garni qu'il remit à Griffard. La grille rouge s'était ouverte toute seule et se referma de même avec un bruit horrible de grincement de dents.
Le pauvre chien d'eau tremblait comme feuille. Mais le neveu du diable, endurci comme le péché, le saisit par le bras d'une main aussi dure qu'un étau, et ils continuèrent leur route vers leur destinée. Après avoir bien marché, ils aperçurent les tours du vieux château. Griffard frappa un grand coup sur le portail. Un insolent de domestique vint regarder par le guichet et, apercevant ces deux vagabonds dont l'un avait un habit la moitié trop court et l'autre un gilet la moitié trop large, il leur ferma le guichet au nez. « Attends un peu, dit Griffard, je vais bien te faire ouvrir, moi, mais j'en vois rien. » Et en disant cela, il lança par-dessus le mur une pluie de louis d'or qui tombèrent sur le pavé de la cour, avec un bruit qu'on ne connaissait guère au château du roi prêt à filer. Deux ou trois valets se jetèrent dessus et se mirent à se battre en poussant des cris de forcenés, si bien que les filles du roi et le bonhomme à leur suite arrivèrent dans la cour pour voir ce qui causait tant de vacarme. Vous comprenez que le portail fut bientôt ouvert, tout grand devant notre ami Griffard, qui vint faire compliment bien tourné au roi Paraphilando. Il est vrai que le vieux sourd n'en entendit pas un mot, mais Finette et ses sœurs, prenant Griffard pour un prince déguisé, se chargèrent de la réponse. Au bout d'une semaine, maître Griff, logé, bien habillé et nourri à 4 repas par jour, disait papa au roi Paraph, et mignonne à ses filles, que c'était un plaisir. Yann Kidour commençait à engraisser et à remplir ses choses, que c'était une bénédiction. Chapitre 3. Pourtant, comme il y a une fin à tout, le sac aux écus devenait plus maigre de jour en jour, et le neveu du diable, qui voulait épouser la plus brave des 3 princesses, imagina de les envoyer à la porte de l'enfer, demander de l'argent jaune à son oncle. Il leur en fit donc la proposition, et toutes les 3 répondirent à la fois « C'est moi, c'est moi, c'est moi qui irai la première !» Et elles allaient joliment se chamailler si Griffard ne les eût arrêtées à temps. « Ta 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 ta, calmez-vous, mignonne, leur dit-il en pinçant le joli menton de Finette. Vous irez chacune à votre tour, mais ce soir, ce sera le tour de Janie. Janie était l'aînée, et un beau brin de fille, une luronne, sensée. Écoutez bien, reprit Griffard, il faudra partir 1 heure avant minuit, et monter à cheval pour aller plus vite. Puis, à la porte de la caverne, vous verrez un joli garçon, noir comme une poêle à frire, et vous lui direz « Je viens de la part de notre ou Griffard. » C'est bon. Sur le soir, passé 10 heures, Janie s'en va trouver son bonhomme de père et lui dit en criant fort « Prêtez-moi votre cheval Astite, qui marche comme le vent, pour aller là-bas, et je vous apporterai la richesse. » Le bonhomme aurait peut-être dû refuser, car mieux vaut pauvreté que fortune mal acquise. Mais que voulez-vous, le pauvre vieux était pas né, comme vous savez, et il donna son cheval à sa fille aînée. Astite partit plus vite qu'un cerf avec Janie sur son dos. Ils allaient comme la tempête, mais au milieu d'une côte, auprès d'un gros rocher, « Halte là, qui va là, la bourse ou la vie ?»« Oh, pardon, monsieur le voleur, » dit la pauvre Janie épouvantée, « ne me tuez pas, je n'ai pas d'argent. »« Allons, descendez vite, » cria le voleur d'une grosse voix, « et retournez chez vous, je n'aime pas les filles qui courent la nuit. » La princesse descendit de cheval, et le voleur ayant pris Astite par la bride, chacun s'en alla de son côté. Le lendemain matin, Janie alla trouver le seigneur Griffard et lui raconta son aventure. Le païen se mit à rire comme un sans-cœur qu'il était en la traitant de poltronne. Mais jugez de l'étonnement de Janie quand, passant auprès de l'écurie, elle vit Astite qui mangeait tranquillement son avoine. Vous pensez qu'elle n'y comprenait rien. Il me faut pourtant de l'argent, dit Griffard à son ami Kidour, lequel n'y comprenait pas davantage. Et il l'envoya chercher Félicité, la cadette des filles du roi Paraphilando. Félicité dit qu'elle était prête à partir, et qu'on verrait bien si elle était brave et capable de faire mieux que sa sœur aînée. Là-dessus, Elle alla trouver son père, lui demanda en criant fort son cheval Astite, qui marchait comme le vent, et partit avant minuit. Voilà qu'arrivé au milieu de la côte, auprès du rocher, « Altala, qui voilà, la bourse sous la vie !»« Pardon, monsieur le voleur, dit Félicité toute tremblante, ne me tuez pas, je n'ai pas d'argent. » C'est bon, répliqua le voleur d'une voix formidable. Descendez vite et retournez à la maison. Je n'aime pas les demoiselles qui vagabondent par les chemins. Félicité s'en revint donc comme sa sœur, et fut bien surprise le lendemain matin d'entendre Astite hennir dans son écurie. Par les cornes de mon oncle, s'écria Griffard, qui faisait semblant de se mettre en colère, il me faut de l'argent sans tarder. Et décochant un joli coup de pied à Yann Kidour, il l'envoya chercher Finette sur le champ. Fine déclara tout de suite qu'elle était prête à partir. Elle s'en alla donc trouver le roi Bouzard, lui demanda en criant fort son bon cheval Astite, plus rapide que le vent, et se mit en route à l'heure voulue. « Halte là, qui va là ?» Même voleur, même air, sensé, mais non pas même chanson. « Je te tue si tu bouges !» cria Finette en lui présentant le canon d'un gros pistolet qu'elle avait emporté par précaution. « Oh, ne me tue pas, mignonne !» dit le voleur d'un ton radouci. « Tu me reconnais bien, j'espère. C'est moi, Griffard, ton bon ami qui est venu ici pour vous éprouver, toi et tes sœurs. Tu es la plus brave, Finette, et si tu veux, je te demanderai à ton père, quand nous aurons attrapé un petit peu d'argent pour faire bouillir la marmite. » La jolie princesse mit sa petite menette dans la poigne de Griffard. Elle sauta en croupe sur Astite, et ils filèrent comme un coup de vent, du côté de la caverne aux écus. Bientôt on arriva à la porte rouge. Le neveu demanda au portier des nouvelles de son cher oncle. Le portier lui répondit. « Ça va mal. Le monde s'améliore et le métier ne va plus. »« Qu'est-ce que ça me fait ?» dit Griffard. « Donne-moi mon sac, il est temps que je file, car j'ai des affaires pressées. »« Ah ah !» fit le monstre en lui remettant une grosse boursée. Puis il ajouta à l'oreille du cavalier. « M'est avis, camarade, qu'il faudra placer en enfer la petite chaise de la fillette à côté de la tienne. »« Ça ne te regarde pas, méchant drôle, » dit Griffard en mettant Astite au galop. 8 jours après, on fit des noces superbes au château de Parafilando. Mais vu que mon père n'y fut pas invité, ni moi non plus, je ne puis vous les raconter en détail. Seulement, on sait que cela dura 7 jours et que ce fut magnifique. Ah, c'est Yann Kidour qui s'en donna une jolie poussée. Et Griffard aussi. Mais voilà que le soir de ses noces, le nouveau marié se trouvant seul un moment, son oncle entra dans sa chambre sans ouvrir la porte. Le neveu aurait bien voulu envoyer le tonton à tous les diables, mais le vieux cornu n'était pas de cet avis. « Bonsoir, mon fils. Bonsoir, mon oncle. Ainsi tu te maries, mon filleul. C'est bête à ton âge, mais ça ne te regarde. Dépêchez-vous, mon oncle, car je n'ai pas le temps. » « Comment tu n'as pas le temps, et moi qui t'apportais une jolie boursette pour mon cadeau de noces ?»« À une petite condition. »« Ah, fit Griffard en lorgnant le sac. Voyons la condition, que voulez-vous ?»« Ma part, mon fils, ma part de ta femme, sans quoi plus d'argent. »« Partager Finette ?» s'écria le neveu stupéfait. « Non, non, mon oncle, je ne veux pas. »« Écoute, mon fiston, dit le diable d'un air bonasse, écoute-moi sans te fâcher. » Pendant 10 ans, Finette et toi, vous serez roi et reine, censé, plus riche et plus heureux qu'aucun autre, mais au bout de 10 ans, il y aura une chaise de plus en enfer, à côté de la tienne, qui était forgée avant ta naissance, comme tu sais. » Griffard réfléchit un instant, mais au bruit de la voix de Finette qui l'appelait, il tendit la main en disant « Topez-la, mon oncle !» Le grand diable s'envola aussitôt par la cheminée, et quand la mariée, jolie comme un cœur et tout habillée de blanc et de rose, entra dans la chambre. Elle se plaignit que ça sentait la fumée et remarqua que sa chaise avait disparu. À la place, il y avait un gros sac rempli d'argent jaune. Il est bon de vous dire que Finique n'était pas nommée Finette pour rien. La nuit de leur voyage à la caverne, elle avait entendu le monstre de portier dire que sa petite chaise serait placée en enfer à côté de celle de Griffard. Cela lui avait donné des soupçons. Et à son retour au château, elle avait par prudence attaché sous sa chaise une petite fiole remplie d'eau bénite. Le diable avait emporté le tout, sans se douter de rien, tout diable qu'il était. Mais voyez-vous, il y a des femmes qui ont plus d'esprit, sensé, que le diable lui-même. Je ne vous raconterai pas toutes les aventures de Griffard et de Finette, ni celles de Chien d'eau, devenu riche, gras comme un vrai procureur, et de plus l'heureux époux de la belle Félicité. Après la mort du roi prêt à filer, Griffard était devenu le plus puissant monarque du monde, et quoiqu'il fût toujours un peu brutal et ami de la bouteille, ses sujets n'avaient pas trop à se plaindre. Enfin, les 10 années passèrent comme 10 jours. Le bonheur passe si vite pour les gens heureux. Et un soir que le roi Griffard Ier et sa femme avaient bien ri après souper, ils virent apparaître un personnage qu'ils avaient oublié. Mais Griffard, l'ayant bientôt reconnu, lui dit hardiment « Bonsoir, mon oncle. Comment vous portez-vous depuis l'an passé ? Vous avez l'air plus triste que l'autre fois. » « C'est bien possible, mon fils, répondit le diable. J'ai tant de soucis avec les moines, les bonnes sœurs et ceux qui se convertissent sans ma permission. Mais mon fiston, il y a 10 ans sonné à la minute depuis le soir de tes noces. 10 ans ? C'est impossible, vous plaisantez. » « Je ne plaisante jamais, reprit le démon. Non, non, non. Ainsi, faites vos paquets et suivez-moi tous les deux. Vous verrez, ma jolie nièce, comme j'ai conservé votre petite chaise à côté du fauteuil de votre mari. Partons, dit Finette. Nos époux furent très bien reçus en enfer, où ils se rendirent avec leur oncle en passant par la fameuse porte rouge, toujours ouverte aux amateurs pour entrer, censé, mais pour sortir, jamais. Le diable était, dit-on, très galant pour la jolie Finette, si bien que notre ami Griffard avait une terrible envie de corriger son oncle, mais Finique lui disait tout bas de ne pas faire attention. Finalement, quand le diable les eut bien régalés, tout en leur montrant les curiosités de l'enfer, et l'on dit qu'il n'en manque pas, et que l'exposition de Paris n'est rien du tout auprès, Finette, se trouvant fatiguée, demanda à s'asseoir. Alors on les conduisit à leur place. Griffard Ier s'assit enfin sur son fameux fauteuil, fait avant sa naissance, et sa femme sur sa petite chaise. Le diable se frottait les ongles tant il était content. Au même instant, on entendit des cris à épouvanter les damnés. C'était Griffard qui hurlait. « Ça brûle, ça brûle! Enlevez-moi d'ici, mon oncle, où je suis cuit, rôti tout vif !» Mais le grand diable se tordait à force de rire, sensé, et ne prenait pas garde à Finette qui avait fait semblant de s'asseoir et se penchait pour détacher de dessous sa chaise la petite fiole qu'elle y avait placée autrefois. « Tu peux rire, va, vilain démon !» se disait Fine. « Tu ne riras pas longtemps, nous allons voir !» En effet, quand elle eut saisi la petite fiole, elle la déboucha adroitement et, se levant tout à coup, elle aspergea d'eau bénite le vieux tonton qui en grinçait, et toute sa séquelle, si vite et si bien que toute la bande disparut dans les caves de l'enfer en poussant d'épouvantables hurlements. Mais le plus curieux de l'affaire, c'est que Griffard et sa femme se trouvèrent à l'instant commodément assis sur de bons fauteuils au château de Parafilando. Enfin, si le roi Griffard Ier se trouvait un peu endommagé d'un côté, vous saurez que Finette n'eut pas de peine à le guérir par son adresse. Par malheur, on dit que la chaise de Griffard est restée en enfer, censée, pour y asseoir quelquefois les plus grands personnages. Ainsi finit mon histoire et la morale de tout ceci, mes amis, c'est qu'une bonne femme peut toujours sauver un méchant mari.